Frissons sonores. Une émission de fiction radiophonique proposée par Maud Romance et Romain Rosser.
N'est-ce pas étrange?
Quand j'étais petit,
mon père entreprenait des petits étrangers.
Il était une fois. C'était une fois un rétameur et son épouse qui vivaient dans des conditions économiquement désavantageuses. L'absence de réalisation matérielle de ce rétameur ne sous-entend pas que tous les rétameurs sont économiquement marginalisés ou qu'ils méritent de l'être si jamais ils le sont. Les rétameurs, en général, servent de bouc émissaire dans les contes classiques. Eh bien, sachez que cet individu particulier était rétameur de son métier comme il aurait pu être autre chose. Et c'était par hasard qu'il se trouvait économiquement défavorisé. Le rétameur et son épouse habitaient une masure proche du modeste domaine de la sorcière du coin. Depuis leur fenêtre, ils pouvaient distinguer son jardin méticuleusement entretenu. Exemple même s'il en est, d'une tentative répugnante d'imposer à la nature les conceptions humaines de l'ordre. L'épouse du rétameur était enceinte, et tandis qu'elle contemplait le jardin de la sorcière, elle se mit à avoir une furieuse envie des laitues qu'elle voyait pousser là. Elle supplia son mari d'escalader la clôture et d'aller lui en chercher. Le rétameur finit par céder, et la nuit, il se rendit dans le jardin et libéra quelques pieds de laitue. Catastrophe ! La sorcière le surprit avant qu'il pût revenir. Or, cette sorcière était d'une bonté défectueuse. Attention, il n'est pas question ici de suggérer que toutes les sorcières, ou même certaines, ont cette déficience, ni de contester à celle-là le droit d'exprimer une tendance qui lui vient naturellement, loin de là. Sans aucun doute, sa nature avait été conditionnée par de nombreux facteurs, dont son éducation et ses fréquentations. Autant d'éléments qu'on doit hélas laisser de côté si on veut rester bref. Comme on vient de le mentionner plus haut, la sorcière était donc d'une bonté défectueuse et le rétameur était vert de peur. Elle le saisit par la peau du cou et lui demanda
« Où allez-vous comme ça, avec mes laitues ?»
Au lieu d'avoir le réflexe de discuter avec elle du concept de propriété, après tout, les laitues appartenaient légitimement à tout individu affamé qui avait assez de cran pour les prendre. Le rétameur demanda grâce en se livrant à un spectacle dégradant et typiquement mâle.
C'est la faute de ma femme. Elle est enceinte et crève d'envie de manger quelques-unes de vos belles laitues. Je vous en prie, épargnez-moi. Même si un foyer monoparental est tout à fait acceptable, s'il vous plaît, ne me tuez pas, ne privez pas mon enfant de la structure stable d'une famille biparentale.
La sorcière réfléchit un instant, lâcha le cou du rétameur, puis disparut sans un mot. Le rétameur, reconnaissant, revint chez lui avec les laitues. Quelques mois plus tard, et dans des douleurs atroces qu'aucun homme ne sera jamais vraiment capable de jauger, l'épouse du rétameur mit au monde une superbe et saine femme en herbe. Ils donnèrent au bébé le nom d'une variété de laitue. Réponse. Peu de temps après, la sorcière fit son apparition devant leur porte. Comme elle avait épargné la vie du rétameur dans le jardin, elle exigea qu'on lui livre un enfant en contrepartie.
« Il n'en est pas question.
Je ne laisserai pas un cheveu de notre enfant à cette harpie sans cœur.
Mais enfin, mon amour, nous n'avons pas le choix. Qui sait quel sort elle pourrait nous jeter, ou pire, jeter à notre réponse.
Mais je ne peux pas.
Tu crois que ça me fait plaisir, peut-être? Nous avons une dette envers elle, et rien à offrir en échange. Aussi douloureux que cela puisse être, c'est la seule issue possible. Et tu le sais autant que moi.
C'est trop dur.
Ça continuait. Sans le moindre pouvoir, de par leurs conditions sociales, ils avaient toujours été en butte à l'exploitation. Que pouvaient-ils faire? Ils estimèrent qu'ils n'avaient pas le choix. Ils remirent réponse à la sorcière, qui repartit en toute hâte. La sorcière emmena l'enfant au fond des bois et l'emprisonna dans une haute tour, au symbolisme évident. Ce fut là que Réponse grandit et devint femme. La tour ne possédait ni porte ni escalier, mais s'enorgueillissait d'une unique fenêtre située tout en haut. Si quelqu'un voulait atteindre la fenêtre, il n'y avait qu'un moyen. Il fallait que Réponse laissât pendre ses longs et somptueux cheveux pour lui permettre de grimper au sommet. Symbolisme non moins évident. Réponse n'avait pour toute compagnie que la sorcière. Celle-ci avait l'habitude de se planter au pied de la tour et de crier.
Réponds ! Réponse ! Laisse pendre tes cheveux que je puisse emprunter ton escalier d'or !
Obéissante, Réponse obéissait. Pendant des années, elle laissa exploiter son corps pour les besoins ascensionnels d'un autre. La sorcière, qui aimait la musique, lui enseigna le chant. Elle passait d'innombrables et longues heures à chanter ensemble dans la tour.
Autre la
la la la la la la la la.
Mais lève le menton, voyons. Tu tiens comme une bossue, là. Allons.
La 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 la.
Un jour, un jeune prince, lors d'une promenade à cheval, entendit Réponse chanter. Alors qu'il s'approchait pour découvrir l'origine du merveilleux son, il repéra la sorcière et se dissimula avec son compagnon Équin parmi les arbres. Il observa la sorcière qui appelait Réponse.
Réponse ! Réponse ! Laisse pendre tes cheveux, que je puisse emprunter ton escalier d'or !
Les cheveux se déroulèrent et la sorcière grimpa. Il entendit à nouveau le magnifique chant. Plus tard, la sorcière quitta enfin la tour pour disparaître dans l'autre direction. Le prince alors sortit des bois et appela.
Réponse ! Réponse ! Laisse pendre tes cheveux, que je puisse emprunter ton escalier d'or !
Les cheveux tombèrent en cascade et il grimpa. Dès que le prince vit Réponse, il réagit d'une manière typiquement aspectéiste, persuadé que la personnalité de la jeune femme devait être aussi fascinante que son apparence. Plus attrayante que la moyenne, il faut le reconnaître. Loin de nous, l'idée de suggérer que tous les princes jugent les gens uniquement sur leur aspect, ni, d'ailleurs, de nier le droit de ce prince-là d'évaluer autrui d'une façon aussi expéditive.
Oh, belle demoiselle, je vous ai entendu chanter alors que je me promenais à cheval dans les parages. Je vous en prie, chantez encore. Juste pour moi.
Réponse ne savait pas quoi penser de cette personne, pour la bonne raison qu'elle n'avait jamais vu d'homme auparavant. Quelle étrange créature ! Il était grand, avait le visage poilu et dégageait une forte odeur de fauve. Réponse, sans comprendre pourquoi, trouva le tout plutôt séduisant et ouvrit la bouche pour chanter.
Colchic dans les prés, fleurissent, fleurissent, colchic dans les prés, c'est la fin de l'été. La feuille d'automne, emportée par le vent, en ronde monotone, tombe en tourbillonnant. Châtaigne dans les bois, se fendent, châtaigne dans les bois.
Arrêtez immédiatement!
Mais comment? Comment avez-vous réussi à monter jusqu'ici?
Mais je me suis fait faire un double de ta chevelure en cas d'urgence, et on dirait que c'est le cas. Écoutez-moi, prince, j'ai bâti cette tour pour mettre réponse à l'abri d'hommes comme vous. Je lui ai appris à chanter, à parfaire sa voix pendant des années. Elle restera ici et ne chantera pour personne d'autre que moi, parce que je suis la seule personne à l'aimer vraiment.
Nous aborderons plus tard vos problèmes de codépendance. Laissez-moi d'abord entendre. Réponse, n'est-ce pas? Laissez-moi entendre réponse chanter.
Non! Je m'en vais vous jeter de la tour dans les buissons d'aubépines qui sont en bas. Leurs épines vous crèveront les yeux et vous rirez à travers la campagne, maudissant votre mauvais sort pour le restant de vos jours.
Il se pourrait que vous reveniez sur cette regrettable décision. Voyez-vous, j'ai des amis dans l'industrie du disque qui, j'en suis certain, devraient être très intéressés par réponse, n'est-ce pas? Ce qu'elle chante est épatant, différent, captivant.
Ah, j'en étais sûre! Vous voulez me la prendre?
Absolument pas! Je veux au contraire que vous continuiez à la former, à vous occuper d'elle, en qualité de manager! Puis le moment venu, disons dans une semaine ou deux, nous la lancerons dans les médias. Et par ici la monnaie! Nous ramasserons tous de l'argent à l'appel!
Manager, vous dites?
La sorcière fit semblant de réfléchir, car c'était visible, la proposition l'alléchait. Elle et le prince discutèrent sur le champ, contrats d'enregistrement, droits audiovisuels et projets de commercialisation sous le label Tour Mélodie. Les idées fusaient, les fans s'arracheraient bientôt des poupées-réponses plus vraies que nature, pourvues de leur propre système stéréo miniaturisé.
Oui, tout à fait. Et avec ça, vous auriez 30% des recettes sur les produits dérivés.
Réponse les observait. Sa méfiance tournait au dégoût. Durant des années, ses cheveux avaient servi à satisfaire les besoins ascensionnels des autres. Et à présent, on voulait exploiter sa voix.
La rapacité n'est donc pas liée uniquement au sexe des personnes.
Ma très chère Réponse ne serait pas ce qu'elle est sans mon apprentissage hors pair.
Réponse s'approcha en douce de la fenêtre. Elle escalada et descendit en s'agrippant au double de sa chevelure, puis enfourcha le cheval du prince qui attendait. Elle détacha la chevelure et l'emporta.
Allez, mon doux.
Laissant la sorcière et le prince à leur droit d'auteur et leur pourcentage dans leur tour phallique. Réponse chevaucha jusqu'à la ville où elle commença par louer une chambre dans un immeuble avec un vrai escalier. Aussitôt à l'œuvre, elle mit sur pied une association à but non lucratif pour la libre prolifération de la musique. Puis se coupa les cheveux et les vendit aux enchères lors d'un gala organisé pour une collecte de fonds. Déterminée à ne jamais gagner d'argent sur le dos de ceux qui avaient envie de l'entendre chanter, elle passa le reste de sa vie à donner des récitals gratuits dans les cafés et les galeries d'art.
Mon prénom vient de l'infortune fade, comme pour le son ou en souvenir de mes parents qui, pour une salade, à tout jamais me perdirent. Je devins femme en haut d'une tour, servant le soir, chantant le jour. Je devins femme en haut d'une tour, bien épargné de la gloire. Je croyais tant devoir supporter à jamais mon corps exploité. Cheval volé, gage de liberté, j'aurais dû les ligoter. Cette sorcière, ce prince peu charmant qui aurait voulu me voler mon chant. Oui, ma tutrice et mon prétendant, nul n'en gagnera d'argent.
Il était une fois une jeune princesse, lasse de se heurter à la structure du pouvoir mâle dans son château. Et la pauvrette, en quête d'un peu de calme, aimait à se promener à travers bois et à s'asseoir au bord d'un petit étang. Là, elle s'adonnait à son jeu favori en jetant en l'air une boule d'or qu'elle rattrapait ensuite dans ses mains. Mais ça ne l'empêchait pas de réfléchir au rôle du militantisme écoféministe à son époque. Un jour, perdue dans ses rêves utopiques, où elle imaginait son royaume transformé par les femmes enfin installées à tous les postes clés, elle laissa tomber la boule qui roula au fond de l'étang.
Fichtre !
Les eaux en étaient si profondes et si troubles qu'elle ne put voir où elle reposait. Elle pleurait pour ça. Il ne faudrait pas exagérer. Elle se contenta de noter mentalement qu'elle devrait faire plus attention la prochaine fois. Elle entendit soudain une voix lui dire
« Hé, princesse, je peux vous rapporter votre boule si vous voulez. »
Elle regarda autour d'elle et aperçut une grenouille qui pointait la tête à la surface de l'étang.
Ah ça, il n'en est pas question. Jamais il ne me viendrait à l'idée d'asservir un membre d'une autre espèce à seule fin de satisfaire mes désirs égoïstes.
Bon, et pourquoi on ne conclurait pas un marché sur la base d'une dépendance mutuelle ? Je rapporte votre boule et en échange, vous me rendez un petit service. Qu'en dites-vous ?
Cet arrangement sembla des plus équitables à la princesse et elle accepta d'emblée. La grenouille plongea et réapparut très vite, avec la boule d'or dans la bouche. Elle la recracha sur le bord et dit
« Maintenant que je vous ai fait plaisir, j'aimerais beaucoup sonder votre opinion sur l'attirance physique entre les espèces. »
Mais qu'est-ce qu'elle me raconte ?
En réalité, je ne suis pas du tout une grenouille, mais bel et bien un homme. Un affreux sorcier m'a jeté un sort, voyez-vous. Cela dit, bien que mon apparence de batracien ne soit ni meilleure ni pire, seulement différente, vous en conviendrez, que ma forme humaine, vous n'avez pas idée combien j'aimerais me retrouver à nouveau parmi les gens. Et la seule chose susceptible de me désenvoûter est le baiser d'une princesse.
Pas folle. La princesse se demanda un instant si une espèce pouvait s'aventurer à en harceler une autre sexuellement. Mais d'un naturel compatissant, elle prit la grenouille en pitié. Quelle situation fâcheuse ! Elle se pencha et l'embrassa. La grenouille grandit aussitôt et changea d'aspect. Et que vit la princesse à la place ? Patougeant dans l'eau ? Un homme, en chemise de golf, affublé de pantalons en tissu écossais, très m'as-tu vu. Entre deux âges, il était d'une verticalité contrariée et menacé par la calvitie. La princesse en fut si déconcertée qu'elle en bégaya.
Pardonnez-moi si je vous parais un tant soit peu socialement cloisonniste sur les bords, les sorciers n'ont-ils pas l'habitude de ne jeter des sorts qu'aux princes ?
En principe, oui. N'empêche que cette fois, c'est un innocent homme d'affaires comme moi qui a été visé. Je suis promoteur immobilier, voyez-vous, et le sorcier s'est mis en tête que je l'avais escroqué lors d'un règlement. Une affaire litigieuse. Alors, il m'a invité à une partie de golf et juste au moment où je m'apprêtais à partir du tee, abracadabra, j'étais devenu une grenouille. Notez que je n'ai pas perdu mon temps sous mon nouvel aspect. Il n'y a pas un seul pouce de ces bois que je n'ai pas prospecté. Et à mon avis, il serait criminel de ne pas en tirer parti. Imaginez un peu. Ici, des bureaux. Là, un complexe de vacances en copropriété. L'endroit idéal, non ? Et tout peut s'y harmoniser à la perfection. Les banques, inutile de vous le dire, ne se seraient jamais amusées à prêter de l'argent à une grenouille. Mais à présent, que j'ai à nouveau visage humain. C'est sûr, elle veut me manger dans la main. Oh, j'en jouis à l'avance. Je vous le garantis, ça va être grandiose. Il suffit d'assécher l'étang, de couper environ 80% des arbres, et d'obtenir le droit...
La princesse coupa net le sifflet du promoteur grenouille en lui fourrant sa boule d'or dans la bouche. Puis, elle le repoussa dans l'étang et lui maintint la tête sous l'eau jusqu'à ce qu'il cessât de se débattre.
C'est fou, le nombre de bonnes actions qu'une personne peut accomplir au cours d'une seule matinée.
Et si jamais il arriva à quelqu'un de remarquer la disparition de la grenouille, personne, en tout cas, ne se demanda où avait bien pu passer le promoteur immobilier.
Vous venez d'écouter Réponse et le roi grenouille, adapté du recueil de nouvelles politiquement correctes de James Finn Garner. Narratrice Sylviane Oran. Dans le rôle de Réponse et la mère de Réponse, Cléo Hénonin. Dans le rôle de la sorcière, Stéphanie Delanoë. Dans le rôle du prince, Arthur Brouard. Dans le rôle du rétameur, Simon Falaise. Dans le rôle de la princesse, Léa Richard. Dans le rôle de la grenouille, Philippe Descourtils. Adaptation, prise de son, bruitage, montage et mixage, Maud Romans et Roman Rosser. Musique, Roman Rosser, Cléo Hénonin et Julien Fuseau. Un merci à l'ISB pour les studios d'enregistrement. À bientôt pour un nouveau frisson sonore sur Radio U.
Il était une fois...